racisme pluriel. Une émission réalisée et animée par Roland Bensoussan.
Chers amis, bonsoir. Roland Bensoussan au micro de Judaïsme Pluriel pour une heure à passer en votre compagnie, comme tous les mercredis soirs, de 20h à 21h.
Cyril ?
Bonsoir, Roland.
J'y vais. Bonsoir. Ce soir, la théorie de l'esprit. Avec mode champagne Lavaux. Laboratoire Parole et Langage à Aix-en-Provence a eu lieu il y a quelques mois un séminaire dont le thème était « Rôle de l'attribution des états mentaux dans la construction du sens ». Ce fut le point de départ du projet de notre émission de ce soir, et c'est donc du Laboratoire Parole et Langage à Aix-en-Provence et avec Maude Champagne Lavaux, notre invitée, que j'ai enregistré cet entretien durant lequel elle a bien voulu nous consacrer un peu de son temps pour nous parler de la théorie de l'esprit. Maude Champagne Lavaux est docteur en sciences cognitives de l'École de hautes études en sciences sociales de Paris. Après avoir occupé un poste de professeur adjoint en psychiatrie à l'Université de Montréal, elle est chercheure au CNRS, au Laboratoire Parole et Langage. Ses travaux de recherche concernent la pragmatique et les liens entre cognition sociale, incluant l'utilisation de la théorie de l'esprit, et ce, en situation de communication dans différentes pathologies. Les termes sont un petit peu compliqués, mais rassurez-vous, Maude va nous les définir et vous allez tout comprendre. Alors, bonne écoute et à la semaine prochaine.
Bonsoir, bonsoir Maude, et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vais lire une phrase que j'ai trouvée donc sur vos écrits. Une des préoccupations majeures pour les sciences cognitives ces dernières années est la recherche concernant le rôle de la théorie de l'esprit dans la construction du sens. Voilà une affirmation qui demande beaucoup d'explications. Peut-être que je vais répéter la phrase pour que nos auditeurs aient le temps de bien la comprendre. Une des préoccupations majeures pour les sciences cognitives ces dernières années est la recherche concernant le rôle de la théorie de l'esprit dans la construction du sens. Alors, pour commencer, Maude Champagne Lavaux, est-ce que vous voudriez nous définir ce que sont les sciences cognitives ?
Alors, les sciences cognitives, on peut dire que ça regroupe différentes disciplines, on va dire, qui s'intéressent au fonctionnement du cerveau pour différents domaines. Donc, ça peut être le fonctionnement du cerveau pour le langage, pour le raisonnement, pour le calcul, par exemple, ou la vision. Voilà, pour ces différents aspects-là. Donc, ça fait appel à plusieurs disciplines.
Plusieurs disciplines. Est-ce que les processus mentaux font partie des sciences cognitives ?
Alors, oui. Alors, processus mentaux, vous voulez dire rapporté par rapport à la théorie de l'esprit ?
Oui, tout à fait.
Oui, bien sûr.
Ça fait partie.
Oui, oui.
D'accord. Vous venez de dire que ça fait appel à beaucoup de disciplines pour montrer l'étendue très vaste de ce champ de recherche. On pourrait citer plusieurs choses comme l'informatique, comme beaucoup de choses, non ?
Oui, la linguistique, les neurosciences.
Les neurosciences, oui.
La philosophie, puisqu'il y a des travaux qu'on utilise. Dont on s'inspire, donc ils sont issus de la philosophie anglo-saxonne, donc la philosophie de l'esprit, la philosophie du langage, la psychologie, bien sûr. Voilà, et quelquefois les mathématiques aussi.
Alors oui, j'ai lu les mathématiques essentiellement dans le sens où on fait des mathématiques pour la modélisation.
Oui, tout à fait.
Arrive à modéliser le... Où c'est très difficile de modéliser.
Donc c'est vraiment pas mon domaine de compétences, mais il y a des gens effectivement qui travaillent sur les processus cognitifs en essayant de les modéliser. Oui.
Alors j'ai cherché un petit peu l'origine de cette science-là et j'ai trouvé en 1956 qu'il y avait un groupe de chercheurs, un informaticien Minsky qui est connu, un mathématicien Shannon, un linguiste bien sûr Chomsky, des psychologues, deux neurobiologistes qui se sont réunis pour commencer à travailler sur cette question-là. Voilà donc pour les sciences cognitives. Maintenant, on va peut-être rentrer un peu plus dans le sujet. Alors, j'ai parlé de théorie de l'esprit.
Oui.
C'est quoi la théorie de l'esprit ?
Donc, c'est cette capacité qu'on a à attribuer ce qu'on appelle des états mentaux aux autres. Donc, les états mentaux, on veut dire par là les intentions, des croyances, des connaissances, des désirs, etc. L'idée est que y a la réalité qui nous entoure et on va avoir des croyances, des connaissances ou des intentions par rapport à cette réalité. Donc moi, je vais avoir des croyances, des intentions, des connaissances sur cette réalité. Et les autres vont avoir aussi des états mentaux, donc des croyances, des intentions, etc. sur cette réalité. Et ces états mentaux peuvent être différents des miens, en fait. Donc voilà, c'est une capacité qui nous permet d'expliquer le comportement des autres. Si je vois passer quelqu'un, par exemple, avec son parapluie, je peux croire que cette personne vient de récupérer son parapluie, elle l'avait oublié quelque part, ou alors je peux penser que cette personne a son parapluie parce qu'elle croit qu'il va pleuvoir aujourd'hui, des choses comme ça. Mais ça intervient aussi dans la communication avec les autres, ça nous permet de comprendre ce que disent les autres.
C'est donc un rôle absolument fondamental dans les interactions sociales.
Voilà, oui.
Elle joue c'est très très important. Et d'ailleurs, ça rejoint beaucoup les objectifs de judaïsme pluriel, puisque nous essayons de comprendre les motivations, les comportements des gens. Ça rentre tout à fait dans le cadre. Alors, la construction du sens, vous avez dit, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire d'une manière précise ? Parce que chacun va comprendre quelque chose et je suis sûr que personne ne va comprendre la même chose, la construction du sens.
Donc les gens vont avoir des croyances différentes sur cette expression. Donc par construction du sens, donc en l'occurrence dans la phrase que vous avez citée, il s'agit de la signification. Hein, donc quand je discute avec quelqu'un, on sait depuis Grice, qui est un philosophe du langage, que il y a les mots qu'on prononce, d'accord ? Donc ça va être ce qu'on appelle le sens ou la signification des phrases qu'on dit. Et puis le sens de la personne qui parle, en fait, ce qu'elle veut dire, d'accord ? Et il n'y a pas forcément une adéquation parfaite entre ça, c'est-à-dire qu'on peut dire une chose et vouloir expliquer ou signifier autre chose. D'accord ? C'est un peu ce qu'on fait quand on fait de l'humour ou... Quand on est ironique, en fait, on va dire le contraire de ce qu'on veut dire. Si Il pleut, bon, il pleut jamais ici, mais admettons qu'il pleuve, hein, oui. Et que je dise quel temps magnifique. Hein, oui. Bah, le sens de ma phrase, la signification de la phrase dit il fait très beau. Mais moi, ce que je veux signifier, si je suis ironique, c'est le temps est vraiment très moche aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ce décalage qui nous intéresse. Donc quand on parle de construction du sens, c'est aller au-delà de la signification du sens des mots dans la conversation, et c'est la construction de la signification. On sait depuis Grice, qui est un philosophe du langage, que il y a les mots qu'on prononce, d'accord. Donc ça va être ce qu'on appelle le sens ou la signification des phrases qu'on dit. Et puis le sens de la personne qui parle, en fait, ce qu'elle veut dire, d'accord. Et il n'y a pas forcément une adéquation parfaite entre ça. C'est-à-dire qu'on peut dire une chose et vouloir expliquer ou signifier autre chose. D'accord. C'est un peu ce qu'on fait quand on fait de l'humour ou... Quand on est ironique, en fait, on va dire le contraire de ce qu'on veut dire. Si il pleut, bon, il pleut jamais ici, mais admettons qu'il pleuve, hein, et que je dise quel temps magnifique, bah, le sens de ma phrase, la signification de la phrase dit il fait très beau. Mais moi, ce que je veux signifier, si je suis ironique, c'est le temps est vraiment très moche aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ce décalage qui nous intéresse. Donc quand on parle de construction du sens, c'est aller au-delà de la signification du sens des mots dans la conversation, et c'est la construction de la signification entre les deux interlocuteurs, entre celui qui parle et celui qui écoute, en fait.
Sachant que cette signification peut être différente pour chacun des deux.
Alors l'idée, en fait, oui, mais l'idée quand on discute avec quelqu'un, quand même, c'est de parler de la même chose, d'accord, et de comprendre la même chose, en fait. Donc il y a des auteurs comme Herbert Clark, par exemple, qui dit que cette construction du sens, elle se fait à deux. D'accord, et que je vais dire des choses et je vais attendre un retour. On parle de feedback de votre part. Alors soit le oui que vous dites, ça veut dire que vous approuvez ce que vous dites, ou voilà. Et en faisant ça, en fait, on va construire ce qu'on appelle un savoir partagé ou un savoir commun, en fait, et qui permet de dire on parle de la même chose, en fait. Hein. D'accord. Je vous raconte une histoire. Alors moi. Je vous lance des espèces d'appels. Je vous demande si vous suivez bien ce que je dis, soit par l'intonation, soit en vous disant d'accord, voilà, etc. Donc, l'idée, c'est, mettons, si on discute d'une histoire ou d'un événement, on va y avoir une espèce de construction conjointe ensemble par des allers-retours qui vont permettre de d'être sûr qu'on parle de la même chose, en fait.
Alors, lorsque nous avons préparé cette émission, vous m'avez dit, sauf si j'ai pas bien compris, hein, ça peut très bien arriver, qu'il y a deux attitudes pour le locuteur, soit qu'il considère seulement ce qu'il veut dire, soit qu'il attend un retour de l'autre. Alors expliquez-nous ça.
Alors oui, c'est pas exactement ça. Non, en fait, oui, je sais. Il y a deux façons. Oui. Alors c'est deux façons. Dans la recherche, en fait, hein, du côté des chercheurs, quand on essaye de comprendre comment fonctionne la communication entre deux interlocuteurs, il y a des chercheurs comme Herbert Clark, dont j'ai parlé, qui pensent qu'effectivement, on attribue constamment des croyances et des connaissances à l'autre, et c'est ce qui fait qu'on construit ensemble la conversation, d'accord. Donc c'est là qu'il y a un rôle de la théorie de l'esprit dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais dire certaines choses que parce que je sais que vous les savez, d'accord, ou je crois que vous les savez. Et puis il y a d'autres chercheurs comme Boas Kaysar, donc sont tous les deux des Américains, qui pensent par exemple que on n'a pas besoin de faire ce travail d'attribuer des connaissances ou des croyances à l'autre pour discuter avec lui. C'est-à-dire que du moment que on serait un peu ce qu'on appelle égocentrique, en fait. Oui. C'est-à-dire que du moment que j'ai, en tant que locuteur, j'ai des connaissances ou des croyances sur un certain nombre de choses. Je pars du principe que vous les avez aussi, d'accord ? Mmh. Je ne vais pas réfléchir à est-ce que vous avez réellement ces connaissances ou pas. Je vais utiliser ma théorie de l'esprit que dans les cas où on va être dans des situations où il y a clairement un problème de compréhension, en fait. On n'est pas sur la même longueur d'onde, où on ne s'est pas compris. Et là, je vais me dire, ah non, mais là, mon interlocuteur ne sait pas du tout de quoi je lui parle. Donc, je vais commencer à mettre en branle tous ces mécanismes qui permettent de comprendre si l'autre a les mêmes croyances et les mêmes connaissances que moi. Donc, c'est deux modèles théoriques, on va dire, hein, en psychologie ou en psycholinguistique, qui sont différents et qui sont des façons d'analyser la conversation, en fait. Alors, lequel est-ce qu'il y en a un qui est plus vrai que l'autre ? Pour l'instant, on n'a pas de réponse
peut-être
à ça.
Peut-être qu'il y a un modèle qui s'adapte mieux à certaines personnes et pas à d'autres, peut-être aussi, non ? Ou alors
ça
c'est indépendamment
des... Oui, non, c'est indépendamment. Ça dépend un peu des expériences qu'on réalise et des résultats qu'on trouve, en fait. Hein. Alors, moi, je développe mes travaux plus dans le cadre d'un modèle, donc celui de Clark, mais ça veut pas pour autant dire que l'autre est moins bien ou est faux, en fait. Hein, d'accord ? C'est un mouvement de recherche qui est encore en plein développement, en fait. Hein.
Stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I teach the birds such lovely words and make them sing for you. Bop-bop-wait-a, rub-bop-bop-bop-bay. Bop-bop-bop-da-da-da-da-da-da-da-da. Bop-bop-dee-da-da-da-bay. La-da-bop-bee-da-da-bay. Rub-bop-bop-bop-bop. Bop-bop-dee-da-da-da-da. Bop-bop-wait-a, rub-bop-bop-bop-da-da. Da-da-dee-da-da-da-da-da. Bop-bop-wait-a-da. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in the jar and give them all to you.
J'ai lu dans le papier que vous nous aviez envoyé pour la préparation de ce séminaire quelques questions. Et ces questions, je vais vous les poser, elles ne sont pas de moi, hein, je les ai trouvées sur votre livre. Alors, est-ce que la théorie de l'esprit contraint la construction du sens et pourquoi ? Si elle la contraint, bien sûr.
D'accord, donc ça c'est relatif à ce que je vous disais sur le modèle d'Herbert Clarke, c'est-à-dire que si on a besoin nécessairement d'attribuer des états mentaux et des connaissances à notre interlocuteur, donc dans ce cas-là, ça veut dire que la théorie de l'esprit contraint la construction du sens.
Ah, d'accord.
Ça devient nécessaire, en fait. Mmh. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, on ne peut pas construire le sens ou on ne peut pas discuter ensemble d'un même sujet, en fait.
J'avais pas compris. Bien. Est-ce que les locuteurs prennent... Ah ben ça, vous m'avez répondu déjà. Est-ce que le locuteur prenne la perspective de leurs auditeurs pour expliquer ou comprendre le sens ? Ça, vous nous avez expliqué. Et je crois que vous m'aviez donné, lors de notre préparation, un exemple. C'est le monsieur qui vient et qui dit « je viens pour la réunion ».
Oui, voilà. Donc,
alors, dites-nous ça.
Ça peut nous arriver, voilà, quand on est sur, par exemple, notre lieu de travail, une personne arrive qu'on n'a jamais rencontrée et qui nous dit « où est la réunion ?» Donc, dans ce cas-là, cette personne-là, elle part du principe que moi, je sais aussi où est cette fameuse réunion, alors que non, pas du tout. Et si cette personne me dit où est la réunion sans me donner plus d'informations que ça, donc elle m'attribue des connaissances que je n'ai pas, et je ne peux pas lui répondre, en fait. Je vais lui dire de quelle réunion il s'agit, avec qui, etc. Donc, dans ce type de cas, on voit bien que... si cette personne qui nous demande où est la réunion, elle ne nous attribue pas de connaissances, ou alors elle nous attribue des fausses connaissances, elle part du principe que si elle sait de quelle réunion elle parle, je vais savoir, ça ne fonctionne pas. Là, il y a on pourrait dire un bris dans la communication, en fait. Hein.
Bien. Des questions, j'ai beaucoup de questions. Quel est le rôle du langage dans la construction du sens ?
C'est le langage qui permet la construction.
Mais est-ce que le langage joue un rôle dans cette capacité à attribuer des connaissances aux autres ?
Alors, oui, en fait. C'est l'objectif de mes travaux, en fait.
Oui,
c'est trouver, on va dire, des marqueurs linguistiques, pour employer une expression un peu pompeuse, de cette attribution d'états mentaux. Alors, par exemple, on sait que si, quand on raconte une histoire à quelqu'un, si la personne ne sait pas de quoi on parle, on va utiliser des articles indéfinis, donc comme un, une, pour faire référence à des informations dont on sait que notre interlocuteur ne les connaît pas. Et à partir du moment où on a déjà construit une connaissance partagée avec notre interlocuteur sur cette histoire, on va changer, on va utiliser des articles définis, comme le, la, les. Donc, par exemple, si je vous raconte une histoire...
L'histoire de la voiture.
Voilà, ce matin, en venant travailler sur la route, il y avait un accident, puis il y avait une voiture rouge qui était rentrée dans un arbre et une voiture verte qui était toute cabossée. Il y a un monsieur qui est sorti de la voiture rouge, donc il était barbu, et une dame qui est sortie de la voiture verte. Donc voilà, je mets en place l'histoire. Et pour faire référence aux éléments de cette histoire, je vais utiliser des articles indéfinis. Je vous ai dit une voiture, un monsieur. Puis en continuant mon histoire, je sais maintenant... Que vous savez à quoi je fais référence, donc je vais vous dire le monsieur avec la barbe, il était complètement perdu, il savait plus quoi faire, et puis la dame, elle a pris son téléphone et a appelé les secours, etc. Donc après, j'ai changé, je vous ai dit le monsieur, la dame. Donc ça c'est quelque chose qu'on sait depuis assez longtemps. Et dans une expérience, une sorte de jeu collaboratif, en utilisant donc ces marqueurs-là, en demandant à des patients ou des gens qui sont atteints d'une schizophrénie, donc qui ont un problème pour attribuer des états mentaux aux autres, donc des croyances, des connaissances aux autres, donc qui ont des difficultés concernant la théorie de l'esprit. Donc on a fait jouer ces personnes-là avec un expérimentateur pour... alors je vais peut-être pas expliquer le jeu collaboratif, c'est assez difficile à expliquer sans repère visuel. Enfin, donc l'idée c'est qu'on leur a fait raconter, on va dire, une espèce d'histoire par rapport à des images, et on a enregistrer leur histoire, hein, et l'évolution de l'utilisation de ces articles, en fait. Dire, est-ce que ils utilisaient des articles indéfinis au début, quand j'expliquais les éléments à leur interlocuteur, hein, et puis ensuite ils changeaient par des articles définis. Et on s'est aperçu que quand on réalise ce jeu collaboratif avec des gens qui n'ont pas de schizophrénie et qui n'ont pas de problème de théorie de l'esprit, ils vont faire ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des articles indéfinis au début, départ, ils vont dire un, une, et ensuite ils vont changer vers des articles définis, donc montrant qu'ils attribuent à leur interlocuteur des nouvelles connaissances ou des nouvelles croyances, alors que les schizophrènes qui ont un problème de théorie de l'esprit, eux, vont continuer à utiliser des articles indéfini tout au long du jeu collaboratif sans changer vers des articles indéfinis. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils continuent à ne pas attribuer de connaissances à leur interlocuteur alors qu'ils leur ont déjà expliqué les éléments de l'histoire. Donc cette utilisation, on va dire, et ce changement dans l'utilisation des articles indéfinis et définis, ben nous on utilise ça comme marqueur langagier, parce que ça relève du langage, pour dire si les gens ont une théorie de l'esprit qui fonctionne ou qui fonctionne pas, en fait.
Ben, ça paraît anodin de dire le ou
ben oui,
lui,
on s'en rend pas compte.
Mais c'est vraiment très important, c'est très significatif.
C'est tout à fait inconscient, on s'en rend pas compte, c'est tout à fait inconscient, mais voilà, ça reflète cette attribution de connaissances.
Et c'est donc une technique qui est utilisée pour voir le problème chez des schizophrènes.
Alors voilà, nous on développe ces travaux, moi je développe avec mon équipe ces travaux, donc on a montré ça en 2009, ce qui est relativement récent. Donc c'est une idée qu'on continue à creuser, et qu'on a continué à utiliser avec une de mes thésardes, en fait, qui a soutenu sa thèse, Noémie Moreau, chez d'autres personnes avec une maladie d'Alzheimer, en fait. Et on a reproduit effectivement ces résultats-là.
Alors, une autre question. Tout à l'heure, je vous ai demandé quel est le rôle du langage. Maintenant, je vais vous demander, est-ce que la prosodie transmet des informations justement à ce niveau-là? Peut-être que la prosodie, il faudrait dire quelques mots pour nos auditeurs. C'est quoi la prosodie?
Alors, bon, de façon simple, on pourrait dire que c'est l'intonation de la voix. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je suis pas prosodiste.
D'accord. Mais on a compris, c'est
donc
l'intonation.
Une définition très générale, c'est l'intonation ou la mélodie de la voix. Donc, effectivement, là, c'est des travaux qui sont tout récents, qui datent de... qu'on a commencé à mettre en place en 2014 avec Amandine Michelas, qui est
chercheur. C'est vraiment très récent.
Ici, qui est prosodiste ici.
Ah, oui.
Donc on cherche à montrer. Donc là, c'est pas encore. On a fait une première étude avec des résultats encourageants, mais on continue à travailler là-dessus pour être sûr avant
Bien
de
sûr.
Dire effectivement.
Éprouver la méthode.
La prosodie peut être un marqueur, en fait. De l'attribution de connaissances à l'autre aussi. Mais l'idée, c'est que quand on met en focus une information, c'est-à-dire qu'on veut rendre saillante une information, donc par exemple, si je vous parle de Pierre et Paul qui sont venus au restaurant, et je vous dis Paul a pris un dessert. Je vous dis Pierre et Paul sont venus au restaurant, on a mangé ceci, etc. Je vais vous dire Paul après un dessert. Donc, pour accentuer l'information et vous dire que c'est Paul plutôt que Pierre qui a pris un dessert. Donc, c'est un, ce qu'on appelle le marquage du focus. Je vais mettre une intonation particulière, en fait. Donc, avec Amandine Michelas, on s'est demandé si ce marquage du focus, en fait, il relevait de l'attribution de connaissances à l'autre. Donc, pareil, on a fait une étude avec encore un jeu collaboratif. On utilise beaucoup ça parce que c'est assez écologique et c'est plus, plus amusant, on va dire, pour à tester avec des gens qui ont une maladie, en fait.
Oui.
Donc, toujours pareil avec des gens qui sont atteints d'une schizophrénie et qui ont un problème de théorie de l'esprit. On a montré, donc l'idée c'était de se déplacer sur une carte entre différents objets en fait, et d'indiquer ce que devait faire le participant donc avec une schizophrénie, c'était indiquer à un expérimentateur le chemin à parcourir, entre quel et quel objet il devait passer. Voilà. Et on enregistrait sa description. Et on a fait des analyses acoustiques et on a montré que effectivement, alors que des sujets qui n'ont pas de schizophrénie vont utiliser une intonation particulière pour indiquer le passage à certains endroits, attirer l'attention de l'interlocuteur sur certains endroits pour les mettre en focus, en saillance,
oui,
en fait, les rendre plus évidents pour l'interlocuteur. Donc, les participants sans schizophrénie vont utiliser une intonation particulière. Les schizophrènes vont pas faire ça, en fait. C'est-à-dire que cette intonation, ce marquage du focus, ils vont l'utiliser de façon complètement aléatoire, sans...
Sans signification, alors
voilà.
Sans intention.
Sans intention, c'est
voilà.
Exactement ça. Sans intention, sans avoir l'intention de dire attention, c'est parce que là, il y a une ambiguïté, c'est cette information-là qui est pertinente. D'accord ? Donc, eux ne vont pas faire ça. Donc, ça, c'est un premier résultat, mais qu'on doit encore approfondir, raffiner. Donc, on continue à développer des expériences pour être sûr qu'il y a bien un lien, en fait, entre cette capacité de théorie d'esprit, d'attribution de connaissances à l'interlocuteur,
oui,
et ce marquage du focus, donc cette intonation particulière qu'on va utiliser pour attirer l'attention de l'interlocuteur.
Bien. J'ai une question que j'ai envie de vous poser, mais je vais répéter ce qu'on a dit tout à l'heure, que cette théorie de l'esprit fait appel à énormément de disciplines et qu'on ne peut pas tout savoir. Donc, c'est une question qui me tracasse, mais si ce n'est pas votre domaine, ben, vous me dites tout simplement.
Oui.
Je me suis dit, comment se fait le passage des données perçues, c'est-à-dire une vibration sonore, c'est-à-dire des formes de lettres, de signes, hein, à la construction d'un sens. Entre les deux, qu'est-ce qui se passe ?
Ah oui, là, effectivement, on sort un peu du champ de...
Oui, je suis
carrément
conscient.
Même.
Oui, je suis conscient.
De ce qui est la théorie de l'esprit, en fait.
Bon, c'est pas grave. On cherchera. Alors, nous avons défini... alors, est-ce que l'empathie joue un rôle dans la théorie de l'esprit ? Alors peut-être qu'on dit deux mots sur l'empathie.
Oui, alors c'est deux mécanismes, ces deux mots qu'on peut souvent associer, mais il y a quand même des mécanismes qui sont un peu différents en fait. C'est-à-dire que dans la théorie de l'esprit, on va dire, alors ça dépend des écoles hein, toujours, on va dire qu'on attribue des états mentaux dits cognitifs, d'accord ? Donc des intentions, des croyances, des souhaits, des désirs, des connaissances, alors que dans l'empathie, on peut dire qu'on attribue des états mentaux affectifs,
d'accord,
donc des émotions,
oui,
de la tristesse, de la joie, etc. En revanche, dans l'empathie, il y a, on pourrait dire, un mécanisme supplémentaire qui est le ressenti, en fait. Je pense qu'on en a. C'est-à-dire que regarder un film,
oui,
je pense que c'est, on peut regarder un film ensemble et tous les deux attribuer au personnage une émotion triste, par exemple, dire que le personnage est triste, mais pas forcément ressentir cette émotion de la même façon, c'est-à-dire que à l'extrême, hein, moi, ça pourrait me faire pleurer, par exemple, de voir quelqu'un pleurer et pas vous, mais, ou l'inverse. Oui. D'accord. Donc, il y a l'idée de reconnaître cette émotion chez l'autre et de la ressentir en plus. Mais vraiment, du côté de l'empathie, on est du côté de l'affectif, en fait, donc des émotions, alors que du côté de la théorie de l'esprit, on est du côté du ce qu'on appellerait du cognitif, en fait.
C'est ça,
les intentions, les croyances, les connaissances, en fait.
Très bien.
Un matin comme tous les autres, un nouveau pari. Rechercher un peu de magie dans cette inertie morose. Sa vie, puis un soir le rideau tombe, c'est pareil pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus essentielles. Mais tout peut changer aujourd'hui. Le premier jour du reste de ta vie, plus confidentiel. Pourquoi vouloir toujours plus beau, plus loin, plus haut, et vouloir décrocher la lune quand on a les étoiles? Certitude s'effondre en quelques secondes. Sache que du berceau à la tombe, c'est dur pour tout le monde. Rester debout, mais à quel prix? Sacrifier son instinct et ses envies les plus confidentielles. Changer aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. C'est providentiel.
Bon, alors, nous avons défini la théorie de l'esprit, son rôle fondamental dans la construction du sens. Je voudrais, vous avez un petit peu d'ailleurs abordé ce problème. Quels sont les moyens d'investigation Vous nous en avez parlé déjà un peu, mais comme ça, on va les remettre à jour.
Oui. Alors, il y a effectivement les deux expériences dont j'ai pu vous parler, donc oui, avec des jeux collaboratifs où on va regarder l'utilisation des articles définis, indéfinis. On peut regarder la prosodie, bien que ce soit encore vraiment très... On soit au début,
de
on
ne
peut pas
recherche,
encore...
Oui.
Voilà, on peut pas encore dire... voilà, ça c'est une expérience clé en main que vous pouvez utiliser pour dire s'il y a un déficit ou un trouble de la théorie de l'esprit.
On va dire que ça reste encore en laboratoire.
Voilà, exactement, je veux dire ça. Donc ça, c'est des travaux qui sont propre à mon équipe, en fait. Oui. C'est vraiment des choses sur lesquelles on travaille avec des chercheurs comme Amandine Michelas ou encore avec mes étudiants. Et puis après, il y a des choses qui sont beaucoup plus classiques. Donc, il y a une tâche, par exemple, qui est utilisée chez les enfants. On parle du paradigme de Sally et Anne, en fait. Donc, c'est un paradigme qui date des années 80. Donc, on fait ça soit de manière visuelle sur du papier, soit en déplaçant des petits personnages type marionnettes, en fait. Oui. On dit qu'il y a deux petites filles qui sont sur... deux petites filles sur un endroit. Donc, il y a une petite fille qui s'appelle Sally qui va prendre une balle et la mettre dans une boîte devant l'autre petite fille qui s'appelle Anne. On va faire sortir Anne de la pièce. Et puis, pendant ce temps-là, Sally va prendre la petite balle qui était dans le carton. Et va la mettre à un autre endroit. Voilà, dans un panier, par exemple, donc non visible. Et on fait revenir Anne sur la petite scène. Et on va demander à l'enfant... où Anne va aller chercher la balle. Donc, si l'enfant a une théorie de l'esprit, il va dire que Anne va aller chercher la balle dans le carton,
bien sûr,
parce qu'elle ne sait pas que la balle a été changée de place, donc elle croit que la balle est toujours dans le carton. Et si l'enfant n'a pas de théorie de l'esprit, il va se fier à la réalité et il va dire que Anne va aller chercher la balle dans le panier. Voilà, c'est toute la distinction que je vous explique, dont je vous ai parlé au début, sur la réalité et les croyances qu'on a sur la réalité. Donc un enfant qui n'a pas de théorie de l'esprit, donc juste à un certain âge, va se fier à la réalité et va dire que la marionnette va aller chercher la balle là où elle est effectivement, alors qu'un enfant qui a une théorie de l'esprit va attribuer des croyances ou des connaissances à la marionnette et dire qu'elle va aller chercher la balle à l'endroit où elle était au tout début. D'accord. Donc ça, c'est le paradigme de fausse croyance. Donc c'est un des paradigmes qui a été utilisé aussi dans les années 80 pour montrer que les enfants atteints d'autisme avaient un déficit de théorie de l'esprit.
Voilà. D'accord.
Donc ce paradigme-là, après, on l'a développé depuis les années 80 de différentes façons, en fait. De façon textuelle, c'est-à-dire qu'on dans des histoires, on raconte pour des adultes, on raconte des histoires où il y a un personnage qui a une fausse croyance sur les agissements d'un autre personnage. Il y a des vidéos aussi, il y a un paradigme d'Anna Sanson qui est une chercheure qui travaille en Belgique, où on a, donc c'est assez simple, une fenêtre avec quelqu'un, donc c'est une vidéo, avec quelqu'un qui a une boîte. Alors par exemple, ça peut être une boîte de cornflakes, et dans cette boîte de cornflakes, elle va mettre différents objets, soit des cornflakes, c'est ce qu'on attend d'habitude, soit un passeport, ou soit une cuillère. Et puis on a un voisin, donc qui est un espèce de personnage dessiné, qui se promène devant cette fenêtre, et voit l'objet qui est mis en premier, et puis on fait disparaître ce personnage et l'objet est changé, remplacé par un autre. Donc vous comprenez, c'est toujours
le même principe.
En fait.
Oui, tout à fait.
Et on fait revenir le personnage et on va demander à un adulte, c'est un paradigme qu'on utilise chez les adultes, que d'après vous, qu'est-ce que le personnage qui passe devant la fenêtre pense qu'il y a dans la boîte? Voilà, donc soit la personne qui passe l'expérience se fie à la réalité, donc ce qu'il y a effectivement dans la boîte, ou elle se fie à la croyance du personnage qui est passé devant la fenêtre. Donc c'est toujours le même principe qui est décliné de différentes façons, en fait.
Alors vous avez parlé de l'utilisation, enfin la recherche de cette théorie de l'esprit dans des cas comme la schizophrénie et comme l'autisme. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres cas où il y a un déficit?
Oui. Alors, on ne pourra pas parler de toutes les pathologies.
Le principal, bien sûr.
Donc, c'est des déficits qu'on va trouver aussi, enfin des déficits. On parle de déficit comme un manque, mais dans certains cas, ce n'est pas forcément un manque, c'est une perturbation, on va dire.
C'est-à-dire que
des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne moins bien. Donc, avec Noémie Moreau, qui a soutenu sa thèse.
J'ai assisté.
Oui. au mois de septembre, de façon brillante, on a montré que chez les gens qui ont une maladie d'Alzheimer, pouvait y avoir des problèmes d'attribution d'états mentaux aux autres. Donc, on a utilisé le paradigme avec les articles définis, indéfinis, utilisé chez les schizophrènes. Et puis aussi chez des gens qui ont ce qu'on appelle un trouble léger de la cognition. Donc, c'est des gens qui ont une plainte cognitive, donc qui vont aller voir le médecin en disant, ben voilà, j'ai des problèmes de mémoire, je me rappelle... jamais, je retrouve plus mes affaires, etc. Donc une plainte cognitive, mais qui vont pas avoir, qui arrivent à se débrouiller dans la vie de tous les jours encore. Oui. Contrairement à des gens qui ont une maladie d'Alzheimer, qui arrivent plus à se débrouiller dans la vie de tous les jours en fait, qui sont plus autonomes.
Oui.
En fait. Donc et Noémie a montré que chez ces gens qui ont un trouble léger de la cognition, on va trouver cette difficulté à attribuer des connaissances aux autres dans la conversation, alors que chez cette population de personnes avec un trouble léger de la cognition, il y en a qui vont réussir les tests dits classiques, donc comme cette histoire de boîte avec des cornflakes, alors que d'autres vont déjà échouer cette tâche. Mais avant d'avoir cette dissociation entre ceux qui ont des difficultés sur la tâche classique et ceux qui n'ont pas de difficultés sur la tâche classique, Noémie Moreau a montré qu'il y avait déjà un problème en conversation, en fait.
Ah, d'accord.
Donc, en fait, là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que ça veut dire que si on étudie cette capacité de théorie de l'esprit dans cette population-là, par exemple, durant la conversation, on trouve des moyens d'évaluer cette compétence-là durant la conversation. On peut essayer de mettre le doigt sur un marqueur de conversion vers la maladie d'Alzheimer, en fait.
Alors, je vois que vous avez appliqué ce principe, puisque vous me parlez de Noémie, vous m'attribuez la connaissance.
Oui, c'est vrai, bah oui, parce que je sais que vous avez assisté.
Mais en fait, c'est
ça. Effectivement, c'est
ça, quand
même. C'est
voilà, ça
oui.
Tout à fait. Bon.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le. Gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand
j'écoute Béa, un solo de batterie. V'là la Java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste. Quand le jazz est, et quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la Java. Pour moi, jazz et Java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la pastille et noircie à Harlem. Pour moi, jazz et Java, dans le fond, c'est tout comme. Quand le jazz dit gomen, la Java dit go-on. Mais quand le jazz est, et quand le jazz est là, la Java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gomen. Gaz entre le jazz et la Java. Jazz et Java copains, ça doit pouvoir se faire. Pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère. Je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Yeah. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la Java mes mains pour le bas de son dos.
Y a-t-il des moyens d'agir pour améliorer justement ce déficit de théorie de l'esprit?
Alors, il y a des travaux qui sont relativement récents. Hein. On pourrait dire que ça date des années. Sûrement peut-être des travaux vers 2005, mais en France, oui. Par exemple. Il y a un groupe qui travaille à Versailles avec Marie-Christine Hardy-Bailey, a développé ce qu'on appelle des outils de remédiation cognitive. Donc il s'agit de développer des outils pour entraîner, un peu comme on pourrait entraîner la mémoire.
Oui.
Vous savez, il y a ces logiciels qu'on a beaucoup vendus à une certaine période pour entraîner le cerveau des personnes qui vieillissent, donc pour entraîner la mémoire.
C'est une gymnastique
voilà,
du cerveau,
une espèce
quoi.
De gymnastique. Donc on essaye sur ce principe-là, donc, qui est la remédiation cognitive. Donc on essaye de développer des outils pour travailler. Donc des exercices pour travailler cette attribution de connaissances ou de croyances aux autres. Donc je sais que dans l'équipe de Marie-Christine Hardy-Bailey, ils travaillent à partir de films.
Oui, vous m'avez parlé de ça la dernière fois.
Donc des films.
Alors ça décrit des petites situations.
Ah, oui, c'est des films, les films qu'on voit à la télé, hein, que vous allez voir au cinéma. Ils coupent des séquences où il y a des échanges entre des interlocuteurs. Et ils essayent de décortiquer, en fait, quelles sont les informations, pourquoi un des personnages dit telle chose ou telle chose, sur quelles informations il se base pour pouvoir dire ça, etc. Et donc, l'idée, c'est, en décortiquant ces scènes, d'arriver à entraîner les gens, donc en l'occurrence là c'est des personnes qui sont atteintes de schizophrénie, pour trouver les bons indices pour attribuer des états mentaux aux autres. Quand j'étais à Montréal, on avait développé aussi un outil comme ça, où on se basait donc c'était avec Laurent Le Quart d'Heure et Emmanuel Stipe, avec sur des dessins animés par exemple, vous savez les cartoons type Bugs Bunny là, il y a beaucoup de choses comme ça donc où il faut attribuer des croyances à un des personnages pour comprendre pourquoi il fait ça ou pour trouver ça drôle en fait.
Ça a l'air plaisant de faire ce genre de recherche.
Ah oui. Effectivement.
Oui. Bon, alors là, j'ai encore une autre question qui sort certainement du cadre, mais ça fait rien. Je la pose parce que j'ai envie de savoir. Est-ce que d'abord ça a du sens d'attribuer des états mentaux non pas à une personne, mais à un groupe, à une ethnie? Est-ce que ça a du sens de se poser cette question?
Alors, est-ce que c'est donc ça peut être les stéréotypes en fait.
Oui,
c'est
voilà,
ça,
c'est
ce que
ça,
vous
oui,
entendez.
Oui, oui.
Oui, c'est des stéréotypes en fait. D'accord. Voilà, c'est pas forcément basé sur sur des informations concrètes, mmh. où voilà, c'est le un peu l'idée du stéréotype en fait, hein, c'est qu'on prend des éléments qui sont pas forcément réels, ouais, ou vrais, et on construit des choses autour de ça en fait. Hein.
Alors la deuxième partie de la question, qui est encore plus épineuse, je vous l'avais déjà posée d'ailleurs, c'est le fait d'attribuer donc des états mentaux qui peuvent être erronés, puisqu'on attribue toujours des états, oui, mentaux qui peuvent être erronés. Est-ce que ça peut conduire à une très mauvaise conduite, voire même à devenir violent, ou sans éprouver de la culpabilité, tout simplement parce qu'on a attribué des états mentaux erronés? Vous comprenez ce que je veux dire?
Alors la question n'était pas tout à fait la même.
Alors prenez, allez-y.
Enfin, il y a un décalage en fait. Hein. Je pense pas qu'on puisse, on peut pas, pour le coup, attribuer à la théorie de l'esprit et à ce qu'on en fait ou à cette capacité-là les conséquences de ce qui se passe dans le monde.
C'est un gros décalage,
en fait.
Oui.
C'est un peu.
C'était la question que je me posais.
Décalé. Voilà. Il y a pas de lien de cause à conséquence en fait.
D'accord. Ben, il nous reste 2 minutes. Je voulais juste vous demander si ce projet, Mind Project, est terminé ou s'il continue.
Alors, il est terminé dans le sens où le cadre, on va dire, administratif a pris fin, c'est-à-dire que la subvention qu'on nous a attribuée pour développer ce projet, donc une subvention de l'Agence nationale de la recherche française, est terminée. Voilà. Mais après, bien sûr, moi je continue, c'est l'objet de mes travaux, donc je continue à travailler là-dessus. Oui, j'ai plusieurs étudiants en thèse qui développent des projets sur différentes questions qui tournent autour de ça, hein, des liens entre langage et théorie de l'esprit.
Et après ce séminaire, est-ce qu'il y a eu une production, un rapport, des conclusions? Je pose la question pour nos auditeurs qui seraient intéressés d'aller fouiller un peu plus loin. Est-ce qu'ils peuvent trouver des...
Alors, il y a un rapport, effectivement, administratif dont une partie n'est pas accessible au public, mais il y a un résumé qui est accessible au public.
Ah oui.
Je pense sur le site de l'ANR. Et après, bien sûr, c'est notre travail de chercheur de publier nos résultats,
oui,
dans des journaux internationaux, en fait, des journaux, oui, scientifiques internationaux. Donc là, c'est des revues qui sont en anglais, avec des articles écrits en anglais, mais si on comprend l'anglais, il n'y a pas de problème.
Oui,
voilà.
Oui. Mmh.
Effectivement, les travaux dont j'ai parlé sont publiés dans des journaux
spécialisés.
Voilà, spécialisés.
Voilà. Bien, je crois que on a fait pile poil le temps. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Merci mille fois pour toutes les informations. Et puis peut-être à une autre fois.
Oui, merci à vous pour cette émission. Merci. Au revoir.
Au revoir.
C'était Judaïsme Pluriel, chaque mercredi de 20h à 21h. Merci, bonsoir et à la semaine prochaine.